10h11 minutes de retour dans 100% Max. Content de l'accueillir comme à chaque mardi et jeudi. Nicolas Cloutier, TVA Sports. Salut, Nick.
Salut, les gars. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui a veillé jusqu'à la fin du match?
Ah non, aucune chance.
Pas avec notre horaire, malheureusement.
Ben, c'est ça que je me disais. Écoute, si Max avait regardé ça sur son matelas de Jacob Dobesh là, à ses studios, hey, là, j'aurais été impressionné.
Juste vous dire ça, là, moi j'ai été me coucher après le circuit de Kirk. Là, fait que j'en ai manqué un méchant bout.
Ah, OK. Moi j'ai arrêté au extra inning.
T'sais, moi je me suis dit, le lendemain, je vais reprendre ça. Mais là, c'est parce que maintenant, j'ai pas 5 heures là, entre le moment où je me lève.
Ben oui, puis c'est parce qu'en plus, là, le Canadien joue tard ce soir. Fait qu'on doit se lever tôt demain matin pour écouter le match.
Ah, c'est ça l'histoire. Donné,
apparemment que c'est important de dormir. Fait que
faut cumuler les heures de sommeil. Ouais, Canadien dans l'Ouest contre Seattle. Ce soir, on va voir à l'œuvre le 93. Ivan Demidov, ton texte sur TVA Sports, Nick, ça parle justement de la domination de Demidov dans une colonne des stats avancées.
Oui, le temps de possession de rondelle, le temps que la rondelle passe sur son bâton en zone offensive, surtout en avantage numérique, là, c'est assez débile. Là. Il a juste 19 ans, puis il est parmi l'élite de la LNH. Je pense qu'il y a seulement 6 joueurs dans toute la LNH qui ont manipulé plus la rondelle que lui en avantage numérique en zone offensive.
Incroyable.
Alors, tu vois que malgré son âge, là, la rondelle, là, quand il est sur la première vague de l'avantage numérique, elle transite pas par le bâton de Nick Suzuki. Tout passe par le bâton de Ivan Demidov. C'est aussi un des joueurs qui, dans toute la LNH, a réussi le plus de feintes en avantage numérique. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, les gars, parce que Martin Saint-Louis, après le match, il a dit... Ben, j'ai aimé ça l'utiliser sur la première vague parce que ça me permet de lui donner du temps de jeu.
Ben oui.
C'est intéressant qu'il ait dit ça, les gars, parce que même s'il a joué à peu près 4 minutes en power play contre les Canucks, ça a été l'attaquant le moins utilisé à égalité numérique. Puis là, il y a plein de monde qui me demande comment ça, Martin Saint-Louis, il ne trouve pas le moyen de donner plus de minutes à Ivan Demidov. Puis l'équation est assez simple. Tu as 60 minutes dans un match de hockey, 10 sur les unités spéciales, il en reste 50. Tu en donnes 15 à force égale au premier trio. Ça reste 35. Les 35, il les split à égalité sur les trois derniers trios. Ça te donne 11-30 pour chacun des trios restants à égalité numérique. Puis, écoute, ce serait peut-être pas splitté égal les trois trios restants s'il y avait un deuxième centre expérimenté de renom.
Ouais.
Tu veux attacher un vrai deuxième centre à Ivan Demidov, là, Ivan Demidov aurait plus de temps de jeu.
Mais tu sais, l'histoire là-dedans, c'est que ce deuxième centre-là, on sait qu'il va venir. Là, il y a peut-être une option qui est en train de se retirer de la table lendemain, mais sûrement à cause du début de saison des Pingouins à Pittsburgh, parce que moi, je suis encore de ceux qui y croient.
Hey, nouveau coach, on sait jamais. Hein. Ça semble vraiment avoir revitalisé les Pingouins. Puis il y a une affaire qu'on avait oubliée, Max. C'est probablement la dernière année de Malkin. Malkin a faim.
Non, et puis il est au sommet des pointeurs de la Ligue présentement.
C'est incroyable, exact. Ça. Je sais exact. Pas qu'est-ce qu'il mange à Pittsburgh, mais de voir ces deux gars-là dominer comme ça... C'est cool. C'est juste à quel point est-ce que ça peut durer à leur âge.
Ouais, et pendant qu'on parle des Pingouins, rapidement, demain, 10h30, Anthony Manta des Pingouins de Pittsburgh va être avec nous autres dans 100% Max. On va lui parler de ce début de saison-là. Mais tu sais, ça prend un deuxième centre, Nick. Mais ouais. Kent Hughes a dit qu'il était prêt à surpayer. Ce moment-là va arriver un jour où on va se départir de gens qu'on aime, d'éléments qu'on aime pour aller chercher ce fameux deuxième centre-là pour qu'il puisse compléter Demidov.
Mais qu'est-ce qu'on veut comme deuxième centre? Est-ce qu'on veut un vétéran qui est juste là pour boucher un trou pendant une ou deux saisons parce qu'on se prépare pour McCollidge? On est prêt à aller chercher un gars comme Nazem Kadri qui a plusieurs années à son contrat. Ou on veut aller chercher un gars qui avait l'âge de Kirby Dach qu'on l'avait acquis. On va aller chercher un gars qui va grandir avec le noyau, ce qui donnerait de la compétition à McCollidge. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Max. Moi, un nom que j'avais identifié, c'est Pavel Zacha.
Ouais.
Parce que Pavel Zacha, il va fitter carrément là, avec le timeline de Michael Hage. Michael Hage, quand il va arriver dans la LNH, il va pas être immédiatement prêt à être un deuxième centre dans la LNH. Alors, Zacha achète 2 ans à Michael Hage, c'est parfait. Au bout de ces 2 années-là, peut-être que Michael Hage est prêt à arriver dans ce rôle-là. Et en plus, les Bruins sont épouvantables. Ils sont épouvantables, là, sont atroces. C'est pas les Bruins que vous connaissez. Ils vont vendre bientôt. Là.
C'est atroce, c'est juste, est-ce qu'ils vont vouloir échanger un joueur aux Canadiens, tu sais, c'est quand même des gros rivaux et tout. Mais je pense que c'est intéressant que tu mentionnes ça comme nom parce que j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va se diriger parce que ça va être difficile de trouver un jeune deuxième centre prometteur qu'une autre équipe va se débarrasser de lui. Mais si jamais t'es capable de trouver un gars un peu pont, à la Zacha, à la Nazem Kadri, puis ça dure, disons, 2-3 ans en attendant que ce soit Age, ou peut-être Kapanen, ou vraiment Kirby Doc, peu importe qui d'autre, finit par combler ce trou-là, ben c'est parfait parce que tu vas avoir besoin de cette aide-là assez rapidement si tu veux quand même performer cette année puis l'année prochaine. Et je ne serai pas prêt, évidemment. Là.
Dans le cas de Kadri, son contrat s'inscrit dans la fameuse échelle salariale du Canadien de Montréal à 7 millions, 7 millions-ish ou à peu près. T'sais, s'il peut remplir ce rôle-là pour jusqu'à la fin de son contrat, qu'il l'amène en 2029, où il va être âgé de 38
c'est
ans.
C'est long, là. C'est long, 2029.
Ouais, oui, c'est long. Sauf que t'sais, les candidats sont peu nombreux. Puis ces joueurs-là, ces deuxièmes centres-là que tu cherches, c'est bien rare que tu les acquières par la voie d'un échange, à moins de payer un prix fou. T'es repêches ou t'es prêts à l'autonomie?
Ben, tu sais, c'est pour ça, les gars, que, écoute, j'ai regardé dans tous les marchés, toutes les équipes, c'est quoi les possibilités. La réalité, c'est que toutes les équipes essaient d'avoir un joueur de centre. Toutes les équipes harcèlent en ce moment Calgary pour savoir s'ils sont sur la liste d'équipes de Nazem Kadri. Alors, ça vous donne une idée un peu du marché pour ce type de joueur-là. Alors, je reviens toujours à Pavel Zacha. Puis Pavel Zacha, c'est pas la meilleure invention depuis Pain tranché. Mais c'est la seule option logique que je vois pour les Canadiens en ce moment sur le marché, mais aussi selon la succession des événements pour les Canadiens, quand tu sais que tu as un stud qui s'en vient du Michigan assez dans un horizon, dans un avenir assez rapproché. Puis, tu sais, les Bruins, là, c'est incroyable à quel point... Je m'attendais pas à ce qu'ils soient compétitifs, là. Mais ils sont bien moins bons que je le pensais. Ils ont le pire différentiel dans l'Est.
Ils sont pas moins bons, ils sont épouvantables.
Ils ont accordé autant de buts que les Sharks de San Jose. Ils s'en vont nulle part. Ils savent que ce groupe-là ne peuvent pas les amener à bon port à ce moment-là. Fait à quoi bon là, essayer de persister? Je pense qu'au Thanksgiving américain, du côté des Bruins, on est déjà dans le camp des vendeurs. Alors, si tu es capable de conclure une transaction pour Zacha, parce que l'enjeu, quand tu obtiens un joueur à date limite, souvent, il est trop tard. Il n'y a pas le temps d'aller développer une chimie avec les gars. Tu arrives en série. Bon, la colle n'a pas pu prendre. Mais là, si tu réussis, mettons, au Thanksgiving américain ou un petit peu plus tard, mais avant la date limite, aller chercher ce renfort-là, mais là, tu peux aller peut-être créer un trio qui est stable. Tu peux aller créer une chimie entre Zacha, en Demidov, entre Nuo, peut-être, par exemple. Là, j'invente un trio de même. Et ce trio-là va avoir joué beaucoup de minutes avant le dernier stress de la saison, qui est super important.
Puis tu sais, dans le cas des Bruins, là, moi, toute l'aventure des Bruins, évidemment, tu as le départ de Bergeron, tu as le Marchand, ils ont perdu des joueurs importants à travers les années, mais on dirait que l'identité de ce club-là a viré d'un bord à un moment donné. Ils sont passés des Big Brad Bruins à des not-so-relevant Bruins. Puis j'ai l'impression que le focaillage dans le contrat de Jeremy Swayman et les négociations, c'est un peu tout ça. T'sais, la façon dont Cam Neely a fait les affaires là-bas, c'est un peu tout ça qui a comme fait virer un peu l'image qu'on a des Bruins de Boston.
Mitchell Miller, Max. Tu te souviens de ce dossier-là?
Ouais.
Mitchell Miller.
Rappelle-moi.
C'est les vétérans. Mitchell Miller, il avait été impliqué dans une histoire d'intimidation repêchage.
Ouais.
Il y avait des équipes qui avaient refusé de repêcher.
Ouais.
L'Arizona l'avait repêché, mais finalement, on avait renoncé à ses droits. Là, plus tard, c'est les Bruins de Boston qui décident de l'embaucher alors qu'il était joueur autonome. Et ce sont les vétérans des Bruins qui ont dû se lever et dire « on n'accepte pas cette embauche-là ». Alors, les Bruins ont dû... Le contrat est encore valide, là, mais les Bruins ne feront jamais, finalement, appel à Mitchell Miller. Et ça avait créé des remous dans le vestiaire. Comment un groupe de propriétaires, comment ta direction peut décider de prendre cette décision-là? Une décision qui est hyper sensible là, du point de vue des relations publiques. Puis un gars que tu pourrais amener éventuellement dans ton vestiaire et tu n'as jamais consulté le groupe de vétérans. À partir de ce moment-là, ça partit en vrille, Max.
Et ils ont mal évalué aussi, je pense, l'effectif qu'il y avait en place. À part Absolument. Charlie McAvoy et David Pasternak, qui sont parmi la crème de la LNH, il n'y a pas vraiment de talent élite, de talent premium avec les Bruins. Ils ont essayé de patcher des trous avec des Lindholm, avec des Zadorov, mais ça ne marche pas. Middlestat, exactement. Mm-hmm. Alors que la bonne décision à prendre, ça aurait été difficile parce que les Bruins, c'est une organisation qui est fière.
Ouais.
Eux, ils ont un standard, c'est tout le temps à un certain niveau. Ça aurait été d'entamer une reconstruction. Mais là, ils sont comme dans le fameux no man's land avec un alignement plein de vétérans, pas beaucoup d'espoir. Je vois mal le futur à court et moyen terme des Bruins de Boston.
T'sais, ils ont décidé d'échanger des joueurs aussi aux Leafs de Toronto. On regarde justement Brandon Carlo qui est parti de là-bas. On s'appelle pour Fraser Minton, un choix de 4. En fait, j'allais dire, on leur souhaite pas de malheur. Oui, on leur souhaite du malheur.
On souhaite qu'ils soient éternellement mauvais.
Ouais, c'est ce qu'on souhaite. Nick, ce soir contre le Kraken de Seattle. Toi, perso, ouais. Là, t'es Razor Ramon, Éric Raymond, tout de suite, parce qu'on sait que chez le Canadien, c'est lui qui décide, c'est pas Martin Saint-Louis. T'envoies Sam Montembeau ce soir.
Ouais. Écoute, je sais que vous vous envoyez de bêche, hein?
Oh oui, ben oui. Ben oui.
Vous envoyez de bêche. On s'entend là-dessus, les gars. C'est le gardien qui donne les meilleures chances de gagner de bêche.
You win, you stay.
Mais je regarde le portrait à plus long terme, puis je me dis, tu vas avoir besoin de Montembeau pendant la saison. Tu dois aussi gérer la confiance de Samuel Montembeau. Puis là, Samuel Montembeau, ça fait plusieurs jours qu'il jumelle une contre-performance contre les Rangers, puis une contre-performance contre les Oilers d'Edmonton. Et si tu lui donnes la chance de se racheter ce soir, il t'en sort une grosse contre le Kraken. Là, je veux dire, l'ambiance s'assainir, trouve sa confiance, t'as un tandem de gardiens fiables. Je trouve que, à plus long terme, c'est le meilleur scénario pour les Canadiens. Est-ce que ce soir, la meilleure décision, c'est de l'envoyer? Non. Mais je regarde plus loin et je me dis, c'est peut-être ça qui est le plus bénéfique pour les Canadiens de Montréal.
Faut qu'il en gagne une. Il a juste besoin d'avoir des rondelles puis d'en gagner une. Ouais. Il a besoin de gagner un match 3-2 où il a reçu 38 shots. C'est ça qu'il a besoin présentement.
Juste une. T'as raison, Max.
Puis moi aussi, je suis du bord de faire jouer Dobesch, mais un peu pour aller vers ton point, Nick, t'sais, disons si c'est Dobesch qui joue ce soir, ben là, samedi, ça risque d'être Dobesch encore, et là, tu te retrouverais avec un 10, presque 12-14 jours avant de revoir Samuel Montembeau exact. Devant le filet. Tu le mets pas non plus dans des bonnes dispositions. Fait que, tu sais, c'est pas une position facile nécessairement pour le Canadien présentement de oui, Dobesch fait super bien, puis c'est lui qui te donne la meilleure chance de gagner, mais ça reste que Samuel Montembeau, c'est le numéro un de l'équipe. Un jour ou l'autre, tu vas avoir besoin de lui, puis qu'il se remette à gagner des matchs.
Va falloir, puis tu sais, parce que son poste de numéro 1 sera pas éternel, si c'est comme ça. Si on arrive au match 42 cette année, puis on est encore dans ces questions-là, est-ce qu'on peut encore dire que le numéro 1 dans ce club-là, c'est Samuel Montembeau? Est-ce qu'on n'est pas dans un 1A, 1B? Tu sais, est-ce qu'on va se taper un Swayman Allmark cette saison?
Là, on n'est même pas dans un 1A, 1B, Max, parce que là, OK, si ta mentalité, c'est you win, you stay, ben là, Dobesch, regardez les buts contre Seattle. Si Dobesch gagne encore...
Il est là contre les sénateurs.
Samedi, il est là contre les sénateurs. Là, ça veut dire qu'il a déjà gardé 3 des 4 derniers matchs. Là, avec ce soir, ça ferait 4 des 5. Puis là, ça ferait 5 des 6. Je veux dire, on a plus du 1 à 1B, là.
Non,
on a plus
non,
du 1 à 1B. Puis, c'est Montembeau, là, ça aide pas ta confiance qui est déjà vacillante.
C'est sûr. Mais c'est arrivé par le passé. Tu sais, ce scénario-là qu'on est en train de vous évoquer présentement, c'est arrivé par le passé, puis c'est arrivé à des très bons gardiens de but qui ont connu des périodes creuses à un moment donné qui se sont fait passer. Tu sais, l'histoire d'Eden Hill, c'est un quatrième gardien de but, là. Avant de se hisser jusqu'au sommet puis d'avoir le statut de gardien de but numéro un, il en a volé des jobs, il en a volé des places de par ses performances. Puis encore une fois, je le redis, c'est rien contre Sam parce que c'est le meilleur gars sur la terre puis on lui souhaite tout le succès du monde. Puis bravo. D'ailleurs, bravo à Martin Saint-Louis des commentaires qu'il a émis à l'endroit de son gardien de but. Si tu vas avoir une bonne dose de confiance, là, tu l'as-tu allé l'extrait de Martin Saint-Louis sur Montembeau? On va l'écouter, ce que le pilote du Canadien Montréal a dit sur son gardien de but, Sam Montembeau.
Sam, c'est un bon goaler. Il l'a prouvé tout ce qu'il a fait l'année passée. Sans Sam, on n'est pas là l'année passée. Là. Mm. T'sais, là, fait que moi, comme joueur, j'ai eu des départs comme ça. J'ai eu des... puis c'est pas comme si, quand j'avais ces départs-là, que j'avais oublié à jouer au hockey. Sam va faire une grosse partie de nos succès cette année. Fait que quand tu me demandes, tu me dis « je suis pas inquiète ». Non, je ne suis pas inquiète.
Tu sais, Sam, ça va au complexe d'entraînement. Il est dans son auto. Il entend Martin Saint-Louis à la radio dire ça parce qu'il nous écoute, je sais, là. T'as aucun autre choix que d'être rempli de confiance et de faire « OK, mon coach me fait confiance, là, c'est à moi d'arrêter rondelle. »
Mais quelle bonne réponse, parce que je veux le rappeler, on a rapidement oublié que le Canadien n'est pas en série sans Montembeau l'an passé.
C'est vrai.
Il y a une statistique que j'aime regarder pour les gardiens, c'est les buts sauvés. Alors, les buts sauvés, c'est tu mets un gardien moyen dans les buts et par rapport à ce gardien-là, comment tu aurais sauvé de buts de plus, selon les buts attendus. Samuel Montembeau était dans le top 10 de la LNH l'an passé. Samuel Montembeau, dans les dernières années, là, il a joué devant des défenses épouvantables qui accordaient une quantité épouvantable de chances de marquer dans l'enclave. Oh, oui. On oublie à quel point il a fait des miracles dans une situation là, absolument horrible là, pour les Canadiens de Montréal, Samuel Montembeau. Alors là, après 4-5 mauvais matchs, on est prêt à l'écarter. Attendons un peu. Là. Et je suis pas en train de dire que je suis pas d'accord avec la stratégie « you win, you stay ». On est rendu là. Sentiment d'urgence, tu gagnes des matchs, tu y vas être le gardien qui fait gagner des matchs. Mais je suis pas prêt à dire qu'on n'aura pas besoin de Samuel Montembeau à un certain moment de la saison.
Ah non, absolument pas.
Puis je suis pas prêt à dire que Jacob Dobbish, cette saison, va devenir le gardien numéro un non plus. On va avoir besoin des deux gardiens.
Puis c'est pour ça que... Puis tu sais, il y a deux façons de le voir, parce qu'il y a la façon analytique de tu lis du hockey par les chiffres, puis tu veux que tout le monde grandisse dans l'organisation. Puis il y a la partie du partisan qui paye ses tickets, qui regarde les matchs à la TV, qui, lui, là, a marché les genoux dans Gravel les dernières années, puis ce qu'il veut, c'est gagner des games de hockey. Il veut aller au Centre Bell, il a payé ses tickets 400$, il est allé manger avant, il veut un gardien de but qui arrête les rondelles, puis il veut voir son club gagner des matchs 5-1, 4-1, comme c'est si peu arrivé par le passé. Puis là, il y a un des deux gardiens de but qui nous donne ça présentement. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment vouloir aux partisans de réclamer Dobbish. C'est pas un désaveu envers Sam, parce que par le passé, il y a des joueurs, puis pas à la position de gardien de but nécessairement, qui sont passés par là. Puis on lui souhaite juste de revenir où il était, à son niveau de performance, parce qu'on le sait qu'il est capable, puis on sait que c'est un excellent gardien de but.
Ouais. Puis tu sais, je respecte vraiment votre opinion là-dedans, les boys. Puis si Martin Saint-Louis envoie Jacob Dobbish dans la mêlée ce soir, je comprends. Je veux dire, c'est une position qui a ses mérites. Alors, tu sais, moi je défends la mienne, mais on s'entend que je pense que chacune des deux approches peut être défendue en ce moment.
Oui, oh, absolument. Puis tu sais, tout le monde a son scénario sur la messagerie texte. On va terminer avec ça. Mais Charles dit, si c'est Monty à soir, parce que si Dobbish gagne ce soir et que c'est Monty à Montréal samedi, ça y met beaucoup de pression. T'es mieux de le faire gagner sur la route.
Puis tu sais, absolument d'accord.
Ouais. Prenez pas le Kraken de Seattle à la légère. C'est un club qui a besoin de gagner des matchs de hockey et qui joue du bon hockey simple présentement, sont durs à affronter.
Souvent, merci. Shane Wright aime jouer contre le Canadien de Montréal.
Mazan, puis il nous fait des petits regards baveux. Merci, Nick, de ton temps. On se retrouve jeudi.
Yes, à jeudi, les gars.
C'est bon, salut. C'était Nick Loutier de TVA Sport. De l'autre côté, est-ce que vos enfants jouent à balle? Est-ce que votre petit gars joue à balle? Est-ce que votre fille joue au baseball? Est-ce qu'il y a un intérêt soudain pour le baseball à cause des Jays dans votre famille? Est-ce que ça s'est ravivé? Quel est l'effet que ça peut avoir sur les inscriptions au baseball mineur avec Baseball Québec? Ben Max Lamarche de Baseball Québec avec nous autres dans 2 minutes dans 100% Max.